Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des porteuses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Aujourd'hui, on va parler d'un thème.
Uyu munsi tugomba tuvugana ku cigwa.
Qui me travaille beaucoup.
Kimazini sikinkoraho.
Et qui est extrêmement vaste.
Kandi usanga ari cigwa kinini cyane.
Plus j'étudie ce thème.
Uko mbandanya ndaciga.
Et plus j'ai des choses qui viennent de la parole.
Uko mbandanya ndonka ibintu biva mu ijambo.
Des choses qui s'ouvrent.
Ibintu vyiyugurura.
Des choses que je découvre.
Ibintu ngenda nubura.
De la part de la parole de Dieu.
Kandi nkura mu ijambo ry'Imana.
Et ça devient vraiment quelque chose d'excellent.
Kandi bicika ibintu vyiza cyane.
Il y a des choses que je veux partager sur ce sujet, c'est le sujet de la volonté de Dieu.
Hari ibintu ngomba kuvugana namwe rero muri kino gitondo ni kuvyerekeranye no bugombe bw'Imana.
Parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens.
Kubwo kubera ndabona yuko ari abantu benshi.
Ils n'ont pas compris.
Usanga
ce qu'était la volonté de Dieu. Comment arriver à maturité dans leur vie au niveau de la volonté de Dieu. Je vois des vies qui passent à côté de ce que Dieu veut pour différentes raisons. Et nous étudierons en partie ces choses ce matin. Le problème que j'ai en étudiant la volonté de Dieu et en enseignant sur la volonté de Dieu, c'est un sujet qui est très vaste. Et à chaque fois, ça fait appel à des notions. Et quand on donne un message comme ça, parfois on s'adresse à des gens qui ont une certaine connaissance déjà de base sur la volonté de Dieu. Et des fois, il y a un manque de connaissance. Ce qui fait que ça peut créer des incompréhensions. Et c'est pour ça qu'il va falloir que je revienne sur certaines notions. Vous savez, la volonté de Dieu, nous y serons obligatoirement confrontés dans nos vies. C'est quelque chose devant lequel tu ne pourras pas passer à côté. Dans ta vie chrétienne, soit la volonté de Dieu va se faire, soit elle se fera en partie, soit elle se fera complètement, ou soit tu passeras à côté de la volonté de Dieu. Et c'est dommage, parce qu'il y a des chrétiens nés de nouveau qui passent à côté de ce que Dieu a pour eux, ou qui vivent à 1% de ce que Dieu a pour eux. Mais il y en a d'autres qui comprennent et qui font ce que Dieu leur demande.
Ouais.
Donc nous allons découvrir une chose ce matin.
Et
c'est un peu mon point de mire, la focalisation sur quoi je vais me concentrer. C'est vraiment de voir la part que nous aurons à jouer dans la volonté de Dieu. D'abord, on va aller faire un petit tour dans Matthieu 26. Matthieu 26, nous allons découvrir des choses à propos de Jésus lui-même. À partir du verset 36, Matthieu 26, à partir du verset 36, il dit là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit de Gethsémané et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Verset 38, Matthieu 26, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. On va lire le verset 39. On voit ici Jésus dans un moment particulier. Jésus va prier le Père et il va faire un choix. Il est troublé, troublé dans son âme, mais il aura un choix à faire. Il va avoir une décision à prendre. Oh Seigneur, j'ai toutes ces pressions.
Père,
mais non pas ce que je veux, Mais ce que tu
veux. Cyo, wewe, ugomba.
Vous imaginez Christ.
Muri yumvira Christo.
Dieu le Fils.
Imana mwana.
Venant en chair.
Aje yambaye umubiri.
Loin du Saint-Esprit.
Assis au mavuta na muhemu yera.
Ayant vécu 3 ans et demi.
Amara y'imyaka 3 n'inusu.
Dans un ministère extraordinaire.
Ariko akorera Imana mu buryo bw'igitangaza mu buryo budasanzwe.
Il a prêché.
Aho yavuga ubutumwa.
Il a enseigné.
Aho yigisha.
Il a guéri des malades.
Aho yakiza abagwaye.
Il a fait des miracles.
Akora ibitangaza.
Il a chassé des démons.
Akiruka abadayimoni.
Le royaume de Dieu était manifesté.
Ubwami bw'Imana bukigaragaza.
Et au bout de 3 ans et demi.
Amaye y'imyaka 3 n'inusu.
Jésus, Dieu le Fils.
Yes, Imana mwana.
Arrive dans un moment difficile. Un moment de choix. Un moment de choix. Et vous remarquez qu'ici, Jésus va devoir prendre une décision. Il va dire, Père, non pas ce que je
veux,
mais ce que tu veux. Ça, ça nous montre que Jésus va prendre part à se soumettre. Dans le verbe soumettre, il y a se mettre dessous. La volonté du Père. Jésus lui-même va se soumettre. Se mettre sous la volonté du Père. Il savait qu'il allait passer par des moments difficiles. Mais Jésus lui-même savait qu'il devait soumettre sa propre volonté à la volonté de son Père. Ça vous étonne. Mais mes amis, nous verrons que c'est le même chemin pour nous. J'aimerais faire une parenthèse ici. Jésus n'a pas exercer son ministère en tant que Dieu le Fils. Jésus a exercé son ministère en tant qu'homme moins par le Saint-Esprit. Si vous en voulez la preuve, c'est très simple. Pendant 30 ans, Jésus n'a rien fait. Vous savez comme moi que le premier miracle qu'il a fait, c'est dans Jean chapitre
2
où il va changer l'eau en vin. Et il est dit là que c'était le premier miracle
qu'il a fait.
Jésus ne va rien faire tant qu'il n'est pas loin du Saint-Esprit. Il avait besoin d'une onction pour pouvoir accomplir la mission. Et Jésus a attendu d'avoir cette
mission.
Ça peut vous étonner, mais c'est une vérité scripturaire. Jésus n'a pas exercé son ministère en tant que Dieu le Fils. Sinon, il n'aurait pas eu besoin d'être en onction. Mais il a dû être revêtu d'onction pour pouvoir accomplir la volonté du Père. Jésus arrive à ce moment, à la fin de son ministère terrestre. Et on le voit qu'il va soumettre sa volonté. La croix était la volonté du Père. Et Jésus a accepté de soumettre sa volonté. Regardez une autre preuve de ce que je vous dis dans Hébreux chapitre
5.
Hébreux chapitre
5,
versets 7 et
8.
Hébreux 5, versets 7 et
8.
La Bible va nous enseigner à propos de la volonté de Jésus. Comment il l'a soumis à la volonté du Père. Regardez bien versets
7
et 8. Il est dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, donc quand il était dans son ministère terrestre, offrit à grands cris avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, regardez bien, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus a appris l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a
souffert.
Je vais vous dire une chose. Si vous voulez vraiment dans la vie faire la volonté de Dieu, ça vous coûtera. Vous savez une chose. Être quelqu'un de conviction vous coûtera. Faire ce que Dieu vous demande, ça vous coûtera. Ça paiera beaucoup. Parce que la Bible nous dit que Dieu est celui qui nous rémunère. Mais ça vous demandera. Ça vous demandera, ça vous coûtera. Si vous ne voulez pas passer par des souffrances,
chiaro.
Selon Dieu.
Ihwanye n'Imana.
Je ne parle pas de choses que le diable essaye de mettre parfois sur les enfants de
Dieu. Ndavuga bijya satana girimwe na rimwe agerageza kuduhomeka
comme la maladie ou des choses comme ça.
Kujya kwingwara n'ibindi.
Je ne parle pas de ça, ça c'est religieux.
Ndavuga ivyo n'ivyo dini.
Ça c'est l'esprit religieux.
Ivyo n'ivyo mviro vy'dini.
Je ne parle pas du tout de ça.
Ndavuga ndavuga ivyo.
Mais je parle d'obéir à Dieu.
Ariko ndavuga kumvira Imana.
De subir certaines persécutions.
Ugasanga rimwe na rimwe uri kurahamwa.
Certaines moqueries.
Ugasanga barakuo baragusuzugura barakunegura.
Certains temps difficiles.
Ugasanga uri kuracha mu bihe bigoye.
Parce que vous êtes au milieu de la
religion. Kuko kubera wahisemo kuja mu bugombe bw'Imana.
Vous savez souvent les gens qui sont dans les religions traditionnelles.
Murazi kenshi nk'abantu bari mu mashengero ya kera.
On reprit et nous l'avons je pense tous fait d'une manière ou d'une autre.
Ugasanga kenshi bakunda kuvuga.
On reprit une prière que Jésus a enseigné à ses disciples en Matthieu 6.
Nisengesho Yesu yereka yigisha bigisha biwe muri Matayi kigabane cya gatandatu.
Dans Matthieu 6:10, il est dit.
Matayi 6:10 baravuga.
Dans cette prière que nous avons tous répétée sans vraiment la comprendre, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Ah, nous kuvuga rya sengesho tumenyereye, ngubugombe bwawe nibube ku isi nkuko buba mu ijuru.
En fait, nous avons souvent prié cette prière d'une manière machinale. Mais vous savez, au travers de cette prière, il y a une grande puissance. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ici? Que le plan que j'ai prévu pour ta vie se fasse. Que le plan qui est marqué dans le ciel pour toi s'exécute dans ta vie.
Et
c'est ça que veut dire cette prière. C'est pas que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui peut m'arriver, c'est pas grave. C'est pas du tout ça que Jésus a enseigné, mes amis. Ce que Jésus a enseigné ici, il disait que le plan qui est marqué là dans le ciel pour toi puisse avoir une pleine réalisation dans ta vie. C'est ça que Jésus a enseigné. Ça, c'est une autre puissance, mes amis. Que répéter machinalement. Vraiment, mes amis, parfois il y a des paroles de Jésus qui ont été déformées, qui ont été vidées de leur puissance. Vous savez, vraiment, la religion nous avait lavé le cerveau. Hein. Et a empêché par la tradition, la Bible dit. Jésus a reproché cela aux pharisiens. Il leur a dit, par votre tradition, vous annulez la parole de Dieu. Vous bloquez la puissance de la parole. Et c'est dommage. Vous savez, quand nous lisons l'Écriture, quand le Seigneur nous dit des choses dans sa parole,
ce n'est
pas pour que ça soit vidé de leur sens.
Hein.
Le sens de ces choses est puissant. Parce que ce n'est pas la parole de
Dieu.
Mais c'est la parole de Dieu. Et quand tu pries ça, Père, que ta volonté, soit faite dans ma vie, ce que tu as écrit, que ça se réalise dans ma vie, parce que c'est ce que je veux pour moi. Maintenant, il va y avoir des conditions. On va regarder deux textes en parallèle, et suivez bien ce que je vais vous montrer. Regardez Philippiens 2, verset 12. Dans Philippiens 2, 12, Paul va nous dire quelque chose qui est parfois un peu étonnant et qui, je dirais, est souvent mal comprise par des chrétiens. Philippiens 2:12. Paul nous dit la chose suivante. Ainsi, mes frères bien-aimés, donc qui parle à des chrétiens nés de nouveau, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi est-ce que Paul dit ça? Travaillez à votre salut. Mais moi je suis déjà sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois faire des œuvres? Regardons Ephésiens 2 en parallèle.
Ephésiens
2, versets 8 et 9.
Hein.
Qu'est-ce que Paul dit? La doctrine de la grâce. Regardons ensemble. Versets 8 et 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Vous
le même auteur semble dire deux choses différentes. Il nous dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et ça fait partie d'une grande doctrine de l'enseignement de la grâce de Dieu, du salut immérité, du don de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour être sauvé? Qu'est-ce que la Bible nous dit? De réaliser que tu es pécheur, de te repentir de ton péché, de te tourner vers la croix de Christ. Le jour où tu as fait ça, tu as cru ce message que Dieu le Fils était venu en chair, qu'il était mort sur la croix, qu'il était ressuscité le troisième jour. Le jour où tu lui as demandé de te sauver, il est venu dans ton cœur, dans ton esprit, il t'a fait naître de nouveau. Et puis c'était terminé. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Quelle œuvre as-tu faite pour ça? Rien, zéro. Parce que le salut est gratuit. Et gloire à Dieu, nous le savons. Nous savons que nous ne pouvons pas mériter notre salut. Mais le salut est gratuit. Jésus nous a fait don du salut. Parce que nous ne pouvions pas gagner notre salut. Mais alors pourquoi Paul dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il va falloir travailler à notre salut? Qu'est-ce que cela signifie finalement? Qu'est-ce que j'ai à faire? Puisqu'apparemment, il dit bien que nous avons une part à jouer. Il s'adresse à des chrétiens nés de nouveau qui sont sauvés. Le ciel leur est garanti. Mais pourquoi est-ce que Paul leur dit travailler? Est-ce que Paul a reçu une révélation différente de ce qu'il a écrit dans Éphésiens? Non, bien sûr que non. Au contraire, il va nous montrer que quand nous sommes sauvés, à ce moment-là, il va falloir que nous soyons actifs en vue de rendre productif ce salut. Vous savez, si quelqu'un accepte Jésus et que la seconde d'après il meurt, il va au ciel et il a le droit à la résurrection d'entre les morts et à l'éternité avec son Seigneur. Ça c'est clair. Maintenant il y a une chose que la Bible nous montre. Regardons ensemble dans 2 Corinthiens 5 verset 10. Recevoir le salut n'est pas une œuvre, ce n'est pas dû à une œuvre, mais c'est donné par Dieu. Maintenant, la Bible va aussi nous montrer quelque chose. Regardez dans 2 Corinthiens 5:10. La Bible nous dit, car il faut que nous, il s'adresse aux chrétiens nés de nouveau, que nous comparaissions devant le tribunal de Christ afin que soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en
mal.
J'ai pas le temps de vous faire un enseignement sur le tribunal de Christ, mais il faut que vous sachiez qu'il y aura un tribunal de récompense sur ce que nous aurons fait ou pas dans notre corps en étant chrétien et de nouveau. Et une chose sur laquelle nous allons avoir des récompenses, ça va être de ce que nous aurons fait au niveau de l'exécution de la volonté de Dieu. Une partie de travailler à notre salut est le fait de savoir quelle va être mon attitude par rapport à la volonté divine dans ma vie. Et ça, c'est important de bien comprendre. Extrêmement important. Une partie de la récompense que j'aurai sera dû à ce que j'aurais accepté de la volonté de Dieu et exécuté de la volonté de Dieu dans ma vie. Si ce que Dieu m'aura demandé dans l'exécution de sa parole et aussi dans les choses qu'il m'aura demandé de faire personnellement, mon obéissance par rapport à cela, si j'ai fait ces choses, Dieu me me rémunérera pour cela.
Imana izompera kubwivyo.
Dieu me rémunérera pour
Imana
cela.
Izompemba kubwivyo.
Il ne me rémunérera pas.
Ntabwo izompera cyangwa izompemba.
Pour des choses qu'il ne m'aura pas demandé de faire.
Kuko ibintu nakoze itansabye gukora.
Si j'ai fait des choses en son nom.
Niba hari ibintu nakoze nitirize na
gihe. Il ne m'aura pas demandé de faire.
Ataransabye kubikora.
Eh bien, je ne serai pas rémunéré pour
ça. Rero ntabwo nzobihererwa.
Je n'aurai pas de récompense pour
ntabwo nzobihererwa.
La Bible n'est pas très claire sur quel type de récompense nous aurons.
Bibiliya ntitomora neza impera tuzoronka ubwoko bwayo.
Mais par contre, je sais une chose.
Ariko ico nzi ico.
C'est si Dieu récompense.
Nuko iyo Imana ihereye.
C'est forcément excellent.
Biruta amadorari.
Et ça sera dans cette vie future.
Kandi azori mu buzima buzoza.
Maintenant, la Bible n'est pas très claire.
Bibiliya ntabwo ibitomora neza.
Il faut le dire, il faut être clair.
Nizeza ko bivuga no kubitomora.
Nous savons et souvent les termes qui sont utilisés à propos des récompenses, des compétitions entre guillemets dont la Bible parle. C'est souvent des termes grecs qui étaient utilisés pour les Jeux Olympiques de l'époque. Comme quelqu'un qui va avoir à courir une course, on en parle plusieurs fois. De remporter un prix. Eh bien, c'est toujours des termes comme ça qui sont utilisés. Mais les récompenses, je ne pense pas que ce sera ni des médailles en chocolat ni en or. Et la seule chose que nous savons, c'est qu'il y aura une hiérarchie dans le royaume futur. Et qu'il y aura des positions. Et ces positions nous seront attribuées. Elles seront attribuées selon ce que nous aurons fait ou pas. Je n'ai pas dit ça, je ne sais pas ce qu'il y a. Il est responsable de son interprétation devant le Seigneur. Alors vous devez comprendre une chose maintenant. On va commencer à s'introduire un peu plus à propos de la volonté du Seigneur. Vous savez, quand nous sommes nés de nouveau, Dieu nous fait renaître dans notre esprit. L'homme est une créature en trois dimensions, nous le savons. Notre esprit a reçu Jésus. Notre esprit ou notre cœur. Maintenant, nous avons une personnalité.
Ce
que la Bible appelle notre âme. Et dans notre âme, il y a différents départements. Notre sensibilité, ce que nous ressentons, nos sentiments, la façon dont nous raisonnons, mais aussi il y a notre volonté. Et vous savez, notre âme, quand nous sommes nés de nouveau, eh bien, notre âme n'est pas
née.
Notre esprit, notre cœur est né de nouveau. Nous sommes une créature, nouvelle créature, dans notre esprit, mais dans notre âme, dans notre personnalité, il va y avoir du travail. Jacques 1:21 nous le
dit.
La Bible nous montre que notre âme doit être restaurée, construite selon le royaume de Dieu. Et dans Jacques 1:21, donc Jacques 1:21 nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ici, Jacques s'adresse à des chrétiens nés de nouveau. Bon, la première partie, il leur dit, voilà, vous avez reçu le Seigneur. Vous êtes encore des bébés. Vous devez repousser tout ce qui est sale dans votre vie. C'est une part de notre sanctification, de nous débarrasser du péché, de tout ce qui a pu nous envelopper et nous lier avant d'être sauvés. Mais il dit aussi une chose. Recevez la parole. Recevez les instructions de Dieu. Parce que c'est ça qui peut quoi faire. Sauvez vos âmes. Alors ça fait un peu bizarre de s'adresser à des chrétiens et leur dire, recevez la parole pour qu'elle sauve votre âme. Mais moi je suis déjà sauvé,
pasteur.
Tout à fait.
Ego.
Tu es sauvé, absolument. Absolument.
Ego.
Mais la Bible parle là de l'âme. Elle parle de ta personnalité. Il va y avoir du travail dans ta personnalité. Vous savez comme moi qu'il y a des chrétiens qui sont très charnel.
Il
y a quelqu'un qui m'a téléphoné encore la semaine dernière et qui m'a dit voilà, moi je suis chrétien et il était né de nouveau, c'est clair. Mais il me dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que je retombe toujours dans le même péché. Je lui ai dit, il vous faut grandir spirituellement. C'est la solution devant laquelle vous pourrez vous débarrasser une bonne fois pour toutes. Vous pouvez renouveler votre âme. Oui, je demande pardon à Dieu et je retombe. J'arrive à tenir un certain temps et ça recommence. Oui, parce que tu n'as pas grandi dans le Seigneur.
Et
la croissance se fait au travers de la parole. Mais je ne veux pas en parler trop aujourd'hui, ce n'est pas tellement mon sujet. Mais dans notre âme, il va falloir grandir. Il va falloir que notre âme soit restaurée. Il va falloir qu'elle se soumette à la parole de Dieu. Et souvent, on parle du renouvellement de l'intelligence, de la restauration de nos façons de penser. Mais là, ce qui m'intéresse ce matin, c'est de vous montrer qu'au niveau de notre volonté, notre volonté doit apprendre à se soumettre, se mettre dessous. La volonté de Dieu, mes amis. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Si vous refusez de faire ça, je vous garantis, vous n'irez pas loin dans votre vie spirituelle. Vous ne pourrez pas aller loin dans votre vie spirituelle. Parce que notre vie spirituelle est faite de consécration, de dédication régulière, de soumission à la volonté de Dieu d'une manière régulière. Vous ne pouvez pas dire je prends une décision une fois pour toutes, je me soumets à Dieu une fois pour toutes. Non, tu ne feras pas ça une fois pour toutes. Tu vas être obligé de le faire régulièrement dans ta vie. Jésus avait un choix devant la croix, d'obéir et d'aller à la croix. Et de dire non, attends Père. Attends. Que cette coupe s'éloigne de moi.
Mais
Jésus s'est soumis. Et nous verrons qu'il va y avoir un combat dans nos
vies.
Un combat pour se soumettre. Vous savez, la soumission, c'est quelque chose de relationnel et de volontaire. De relationnel et de volontaire. La soumission est quelque chose de volontaire et de relationnel.
C'est vrai
dans le mariage, mais c'est vrai aussi avec Dieu. La soumission, même quelqu'un qui va s'engager dans l'armée, par exemple, il
ne
peut pas dire je vais m'engager. Mais attention, le premier qui me donne un ordre, je dirais non. Vous imaginez un soldat qui est comme ça? Il va rapidement se faire chasser. Hein. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Et la soumission est une acceptation. Une acceptation volontaire. D'avoir quelqu'un au-dessus de nous qui nous donne des instructions et que nous suivons. Mais nous avons l'avantage d'une chose avec la volonté de Dieu. C'est que Dieu n'est pas un homme. Merci Seigneur parce que tu n'es pas un homme.
Amen.
Parce que lui, il est parfait. Nous, nous sommes faillibles. Nous pouvons être dans différentes positions d'autorité. Mais nous sommes des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Et nous sommes faillibles. L'avantage que nous avons avec Dieu, c'est que lui, il est infaillible. Lui, il n'a pas de faiblesse. Il n'a pas de bon jour et de mauvais jour. Il n'a pas de bons sentiments et de mauvais sentiments. Mais il est Dieu. Il nous aime. Et il sait exactement ce qui est meilleur pour nous. S'il a écrit sa parole, c'est pas pour te déranger. C'est parce qu'il t'aime.
Amen.
Parce qu'il m'aime. Et parce qu'il connaît le meilleur pour nous. Et s'il a un plan pour toi et un plan pour moi, c'est pas pour que tu fasses le plan qui est écrit pour un autre, Mais c'est parce qu'il a le meilleur pour toi.
C'est
le meilleur pour moi.
Et
que si je connais ce plan,
et
que je respecte ce plan, que je me soumets à ce plan, à ce moment-là, c'est là
où
je trouverai d'ailleurs la source du bonheur. Et que Dieu pourra m'utiliser. Et ça, c'est un problème avec beaucoup de chrétiens, mes amis. Avec beaucoup de chrétiens. Dans Romains 8, 14, je suis obligé de faire appel encore à des notions. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La Bible nous montre ici une chose.
Ce
n'est pas les fils du diable qui seront dirigés par l'Esprit de Dieu. Mais ce sont les fils de Dieu. Dieu veut diriger son peuple. Mais rappelez-vous, nous devons travailler à notre salut. Nous avons notre part. Notre part d'écouter la voix de Dieu. Et notre part de marcher dans la volonté de Dieu. Comment est-ce que Dieu parle dans le Nouveau Testament? Oh, principalement au travers de ton témoignage intérieur. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et Dieu te parlera principalement au travers de ton esprit. C'est pour ça que tu as plutôt intérêt à être sensible aux choses de ton esprit. Dieu parfois nous dirige de façon spectaculaire. Mais c'est assez rare. Il y a des gens, quand on les écoute, ils ont trois visions par jour. Mes amis, ça c'est fou. D'ailleurs, ces gens-là, en général, ils sont très peu soumis à l'Église de Dieu. Ils font souvent tout et n'importe quoi. Et Dieu leur parle toutes les 5 minutes. C'est terrible, ces gens-là. Ils sont graves, ils font beaucoup de dégâts dans le corps de Christ, d'ailleurs. Un certain nombre de fois, Dieu nous parlera par prophétie. Mais rappelez-vous, la prophétie dans le Nouveau Testament est une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. N'allez pas voir quelqu'un
en
lui disant: est-ce que tu as une parole pour moi? Ce n'est pas scripturaire. Et il y a des gens qui se sont mariés à la bonne personne et qui fréquentent la mauvaise église, c'est-à-dire qui se sont écartés de la volonté de Dieu parce qu'on aura prophétisé des choses. Vous savez, ça s'est pas vu une seule fois, mais je l'ai vu plusieurs fois. Des gens qui viennent, qui sont invités dans une église, qui partagent la parole, et qui ne sont pas de vrais prophètes, qui sont considérés par les prophètes, et qui savaient qu'un certain nombre de gens qui étaient assez influents, qui avaient de l'argent, des choses comme ça, et ce prédicateur-là le savait,
ils
commencent à dire: vous là, le Seigneur vous dit que vous devez faire partie de cette église. Et il savait que c'était un visiteur qui avait des sous influents, etc. Ça c'est
bien.
Le premier qui ose faire ça dans l'église El Shaddai, je le chasse. Je vous le garantis. Publiquement, je le chasse.
Amen.
Je suis très sérieux avec ça. Je vous le garantis, on a vu des vies ruinées avec ce genre de choses. Oui, frère Intel, tu dois te marier avec sœur Truc. Oui, c'est ça, frère Intel, t'as des sous, sœur Truc, elle fait partie de mon église, donc il faut que tu viennes dans mon église. Oui, mais Seigneur, je l'aime pas. Elle est vraiment pas belle, je l'aime pas. Le Seigneur t'a dit qu'il fallait que tu te maries. Il y a des gens qui ont fait ça. Quelques années après, c'était une catastrophe. Oui, le Seigneur me dit que tu dois faire du business. Si le Seigneur t'a rien dit, pole. Attends que le Seigneur t'ait d'abord parlé. Oui, le Seigneur m'a dit que tu devais donner 3 millions.
Vraiment,
le Seigneur, il m'a rien dit. Faites attention à tout ça, mes amis. Je vous donne quelques exemples. Ne priez jamais Dieu: Seigneur, donne-moi une prophétie. Dieu te parlera. Ou: Seigneur, donne-moi une vision. C'est pas scripturaire.
C'est
Dieu qui choisit le moyen au travers duquel il veut te
parler.
Si c'est une vision, gloire à Dieu. Si c'est une voix audible, gloire à Dieu. Si c'est au travers d'une prophétie, ça, ce sont des façons spectaculaires au travers desquelles Dieu peut parler. Dieu est tout puissant, mais c'est pas à toi de lui dire: Seigneur, tu dois me parler comme ça. Et encore moins à faire du chantage d'un jeûne et prière pendant 3 jours: Seigneur, tu dois me parler avec une vision pour les 3 jours. J'ai une mauvaise nouvelle, mes amis. Le chantage avec Dieu, ça ne marche jamais. Les prières manipulatrices avec Dieu, ça ne marche jamais. Dieu fait ce qu'il veut
et
choisit la façon dont il veut nous parler. Si c'est spectaculaire, c'est spectaculaire. Mais ne vous attendez pas forcément au spectaculaire. Les gens qui ont eu vraiment des visions du Seigneur vous diront bien des fois: c'était un jour ordinaire, j'étais là, j'étais pas très spirituel forcément dans ces moments-là, et Jésus m'est apparu et le Seigneur leur a parlé, et ça les a puissamment influencés dans leur vie, dans leur ministère. Mais rarement les gens vous diront: j'étais là, j'étais depuis 10 jours dans un jeûne et prière, et je suppliais Dieu de me donner une vision.
Et Dieu m'a donné une vision.
Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas avec des pressions ou des chantages. Dieu nous parle, principalement par le témoignage
intérieur.
Les autres façons, c'est son problème. Une dernière chose que vous ne devez jamais faire: ne mettez jamais un signe devant Dieu. Il y a des chrétiens, ils essayent de marcher avec des signes. Seigneur, s'il se passe ça aujourd'hui, ça veut dire que je dois faire ça. Seigneur, si un tel me dit bonjour aujourd'hui avec la main gauche, d'habitude il le fait avec la main droite, alors ça veut dire que je dois faire ça ou ça. Qu'est-ce que les chrétiens sont charnels parfois. J'aimerais pas être à la place de Dieu parfois. Mais la Bible nous dit qu'il est très patient. Vous savez, il faut dire merci au Seigneur pour sa patience envers nous.
Amen.
Patience que nous ne méritons pas. Regardons Philippiens 2:13.
Amen.
La Bible nous dit: car c'est Dieu qui opère, qui œuvre en vous, dans votre esprit, le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant, selon ses projets, les projets qu'il a écrits pour vous. Dieu mettra en vous sa volonté, dans votre esprit sa volonté.
Tu
n'as pas besoin de forcer. Dieu est tout puissant pour te parler. Il va mettre dans ton cœur, dans ton esprit sa volonté, et tu vas être là et ça va revenir. D'abord tu dois créer l'atmosphère au travers de laquelle Dieu peut œuvrer pour te parler. Il y a des gens, ils veulent obéir à rien. Ils sont touristes professionnels des églises. D'autres n'arrêtent pas de faire du mal à droite à gauche chez les chrétiens ou dans des églises. D'autres ne veulent pas s'attacher à une église locale. Ils ne veulent pas obéir à des principes de base. Et ils veulent que Dieu leur parle. Mais la première chose que Dieu te dira: obéis aux principes de base de ma parole. Après, je pourrais te parler. Je pourrais te parler dans des choses plus spécifiques. Je pourrais te montrer mes plans. Mais comment voulez-vous que Dieu montre ses plans à quelqu'un qui ne veut même pas obéir dans des choses de base? Comment voulez-vous que Dieu nous donne de la promotion alors que nous sommes encore en maternelle 3? C'est grave quand même.
Hein?
Il faut être réaliste. Dieu n'est pas stupide. Il peut travailler avec des gens qui veulent vraiment aller loin, qui veulent avancer, qui sont stables. et qui ont vraiment ce désir de dire Seigneur, moi je t'obéis quoi qu'il m'en coûte, je veux aller de l'avant avec toi. Je suis sérieux avec toi, mais avec des gens qui sont flottants comme ça, qui partent partout comme les mouchafous quand il y a du vent. Comment voulez-vous que Dieu travaille avec des gens instables qui
ne
veulent pas avancer avec le Seigneur? Non. Si vous voulez que Dieu fasse des choses pour vous, oui, le Seigneur m'a promis de grandes choses. Mais d'abord, il faut que tu sortes de l'état de mutoto. Il faut grandir, il faut avancer, il faut que tu prennes les choses sérieusement. Il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi. Parce que Dieu veut te parler. Et Dieu veut avancer. Avec toi. Te faire avancer. Mettre le vouloir et le faire. Mettre son plan. Dans ton cœur. Mais d'abord, tu dois passer par la base. Et avoir ta volonté soumise à celle de Dieu. Là, tu crées l'atmosphère. Tu vas permettre à Dieu de te parler. Amen.
Amen.
Alors maintenant, on va voir un texte important aussi. C'est un peu là où je veux en venir.
Hein.
Regardez Colossiens 4, 12. Colossiens 4, 12. Il est dit: Epaphras, votre compatriote, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait ou mature et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme.
Epaphras, wiwanyu, omugrana wa Christo Yesu, arabatasha. Yamabagwanira mu gusenga kwiwe kugira ngo mushikame, mutunganye rwose, mumenya neza mudakekeranya ivyo Imana igomba byose.
On suppose qu'Epaphras était le pasteur de l'église de
Colosse.
Au moment où Paul écrit cette lettre, il est évident qu'Epaphras et Paul étaient ensemble. Mais Paul regardait l'attitude d'Epaphras en tant que pasteur et voir la façon dont il était concerné par le fait de voir ses brebis accomplir la volonté de Dieu. Cet homme avait vraiment un fardeau concernant ses brebis pour les voir accomplir la volonté de Dieu. On le voit ici parce que la Bible nous dit qu'il va combattre dans la prière. Et on va étudier ce mot combattre parce qu'il est important
ici.
Mais là où il était concerné, c'était de voir ces chrétiens marcher dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une clé, mes amis. Si une église a une grande majorité de chrétiens qui marchent dans la volonté de Dieu, alors on peut faire un boulot extraordinaire qu'on ne pourra pas faire si les trois quarts des chrétiens sont boiteux et sont en dehors de la volonté de Dieu. S'ils font n'importe quoi. Parce qu'à ce moment-là, ça réduit l'onction dans l'église. Ça réduit la puissance de la parole. Et ça donne aussi de mauvais exemples de vie par rapport à ce que des chrétiens font, leur comportement, et ça empêche d'autres de venir au Seigneur. Donc nous sommes moins performants en tant qu'église. Pour amener les âmes au Seigneur,
il
faut voir la présence de Dieu se déverser. Il est important de comprendre ça. Et Epaphras l'avait compris. Et lui, il avait ce fardeau. La Bible nous dit qu'il était en train de combattre dans la prière. Et le mot grec qui est utilisé ici, c'est un mot qui est très très fort. Littéralement, il était en train de lutter corps à corps. C'est le mot qui a donné en français agoniser. Vous savez, quand quelqu'un agonise, c'est qu'il est prêt de mourir. Parce que soit il a été blessé extrêmement fortement, ou soit il souffre d'une maladie, il est presque jusqu'au bout. Et en fait, l'idée ici, c'est que Epaphras avait un tel fardeau.
Nuko Epaphura yarafise umutwaro ukomeye.
Il voulait voir les chrétiens.
Yagomba kubona abakristo.
Tenir ferme.
Bahagarara bashikama.
Et voir la volonté de Dieu.
Akabona ubugome bw'Imana.
S'accomplir.
Bushitswa.
Dans la vie de ces chrétiens. Et ça c'est quelque chose qui est important.
Icyo ni kintu cyankenerwa cyane.
Il utilise aussi un mot particulier.
Arakoresha n'irindi jambo.
Il dit à un moment.
Aravuga hano hamwe.
Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait. Littéralement mature.
Et que
vous soyez accompli aussi dans la volonté de Dieu. Vous accomplissiez cette volonté. Ça nous montre une chose. Ça nous montre d'abord qu'il va y avoir un combat pour entrer dans la volonté de Dieu. Il va y avoir donc des obstacles à entrer dans la volonté de Dieu. Et une fois que dans la volonté de Dieu, il va y avoir aussi des obstacles pour que tu puisses pleinement accomplir cette volonté. Ça veut dire que tu fasses le résultat que Dieu s'attend à ce que tu fasses. Que s'il t'a demandé certaines choses, que ces choses puissent pleinement s'accomplir dans ta vie. Que tu n'aies pas accompli qu'une partie du plan de Dieu. Mais ça nous montre que tu dois accomplir jusqu'au bout tout ce que Dieu t'a demandé. Et pour ça, il va y avoir un certain nombre d'obstacles. Il y a des obstacles, mes amis, pour entrer dans la volonté de Dieu. Par exemple, un des obstacles qu'on voit souvent, c'est la rébellion. Des gens qui ne veulent pas se soumettre à ce que Dieu leur demande. Il y a des gens qui savent que Dieu leur demande un certain nombre de choses. Mais vraiment, ils disent non. Ça vous est jamais arrivé de dire non à Dieu?
Ouais,
ça nous est arrivé. Ouais. Le Seigneur nous avait parlé. Et on a dit
on ne
peut pas faire ça.
Oh, yeah.
Et tu n'as pas fait. Ça s'appelle être rebelle. Nous avons l'exemple que nous ne pouvons pas étudier ce matin.
Mais
l'exemple du roi Saül. Saül avait vraiment un superbe appel dans sa vie. Il a été le premier roi d'Israël. Mais il a terminé dans une catastrophe épouvantable. Cet homme s'est vraiment écarté de Dieu. C'était quelqu'un qui était d'une petite famille d'Israël. Et Dieu d'un seul coup a fait de lui un roi. Et Saül était complètement étonné de voir combien Dieu l'aimait.
Et
il l'avait mis dans une telle position. Mais Saül, il avait un gros problème.
C'est
qu'il avait un cœur rebelle. Il était incapable de se soumettre au principe divin. Et là aussi, mes amis, je vois beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas se soumettre dans la volonté de Dieu, au principe divin. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont la tête dure, comme j'appelle ça. Des gens qui ont des idées préconçues sur la façon dont Dieu gère son royaume. Vous savez, Dieu gère son royaume d'une façon différente des royaumes des hommes. Dieu a des lois spirituelles qui ne sont pas les lois naturelles. Dieu gère son royaume, l'autorité de son royaume, les différentes positions dans son royaume, de façon complètement différente des royaumes humains. Et ça, il est temps que le corps de Christ le comprenne. Particulièrement dans la volonté divine. Il y a des gens qui ressentent des appels et ils pensent que les choses vont se réaliser d'une certaine façon. Et Dieu leur dit non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas le temps que j'ai prévu. Oui, mais Dieu m'a dit ça. Ils foncent. Et ça se termine mal. Parce que ça ne fonctionne pas bien. Et au bout d'un moment, ils s'aigrissent. Certains même abandonnent le Seigneur. Parce qu'ils ont échoué.
Mais
c'est dommage. Parce que Dieu n'avait pas ça. Dieu n'avait absolument pas dit ça. Alors, il y a aussi les gens qui sautent sur toutes les occasions, ce qu'on appelle les opportunistes. Alors ça, il y en a beaucoup. Une bonne circonstance, ça nous a été rappelé tout à l'heure dans la prophétie. Une bonne circonstance, et hop, on va dedans.
Okacho simbamo.
C'est Dieu.
N'Imana.
Peut-être, peut-être pas.
Kumbure cyangwa sivyo.
Peut-être, peut-être pas.
Bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo.
Ne pense pas que toutes les propositions qu'on te fait.
Ni wibaze yuko bijya bakwemerera byose.
Sont bonnes.
Byiza.
Viennent de Dieu.
Yuko biba bivuye ku Mana.
Il y en a qui viennent de bonnes circonstances.
Hari biba bivuye mu bihe gusa bisanzwe.
Et il y en a qui viennent de Dieu.
Hariyo ni biba bivuye ku Mana.
Et ça va être à toi de faire la différence.
Na hawo kumenya gusobanura
gutandukanya. Quand tu sens dans ton cœur.
Mugi umvuye ko mutima
wawe. Tu pries par rapport à ça.
Mugi uri kuba bisengera.
Tu as vraiment la pêche. Je parle pas dans ton âme parce que quand on fait des enseignements là-dessus,
si tu quand avoga kubyerekeranye n'imishaka kuko cyamu mitwe kuko iyo turi ko turigisha ibintu nk'ibi
souvent les gens ils vous disent ah pasteur je me sens en paix pour ça, ils ont les yeux qui brillent.
Alors,
mais en fait on sent que c'est leur chair, vous savez.
Ugasanga abantu baravuga bati ya iki kintu ratsiyumvire ngira mahoro ngira mahoro ariko ni nka mu mutwe gusa.
Non non, je parle être honnête de cœur.
Tu quand avoga bimwe biva ibyina.
On parlait de créer l'atmosphère pour que Dieu nous parle.
C'est quand tu regardes bien que nous créons ma carrière qui est à couvrir Imana ivugane
nawe. Dieu nous parle au travers de notre cœur.
Imana ivugane abikiye mu mutima wacu.
Il y a des gens ils voient de bonnes opportunités.
Hari abantu babona rero ibintu byiyuguruye.
Je parlerai pas d'organisation chrétienne et de financement parce que sinon on va y rester toute la nuit.
Si quand c'est quand avuga rero bijya vya mashirahamwe cyangwa association y'abakristo usanga bifuza ibintu by'imfashanyo ivyo byo tubihera mu gatondo bukira.
Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites au nom du Seigneur.
Hari ibintu byinshi bikogwa vyitirirwa amazina
y'Imana. Les gens devraient pas dire c'est au nom du Seigneur.
Ariko abantu batari bakwiye
il ferait mieux dire c'est en mon nom. Ça serait plus honnête.
Soyez
clairs.
Amen.
Si Dieu t'a pas clairement parlé,
mais tu
as envie de faire telle ou telle chose, arrête de dire oui, j'ai prié, je sais que le Seigneur m'a dit que.
Alors,
le Seigneur t'a rien dit du tout. Sois honnête avec Dieu. Et arrête de mettre Dieu dans ton histoire. S'il n'est pas dans ton histoire,
tu
n'as qu'à dire simplement j'avais envie de faire ça et j'ai fait ça. Et ça sera honnête.
Amen. Plutôt
que de dire c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Je sais, ça fait plus spirituel.
Et
comme on est des chrétiens, qu'on paraisse un peu plus spirituel.
Quand tu as Christ, tu dis ça.
Mais malheureusement, si c'est pas Dieu, c'est pas Dieu.
Sois
honnête. Un autre obstacle, c'est de ne pas vouloir payer le prix pour quelque chose. Regardons dans Luc
14.
Luc 14 nous enseigne une chose importante.
Luc 14.
Versets 27 à 30. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé des fondations, il ne soit capable de l'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas été capable d'achever. »
muremure niyobanza kwicara akarimbura igitigiri cy'amahera yo kubaka ngo amenye yuko afise aho yinonosora ngo kumbure yo bahejeje kubaka amatafari y'itanguriro ntashobore kuzuza ababibonye bose bagatangura kumutwenga batuyu yatanguye kubaka none ntashobora kuzuza.
Là Jésus fait un enseignement sur être un disciple. Nous avons beaucoup de convertis dans l'église de Dieu. Mais nous avons peu de disciples. Il y a une différence entre être un converti et être un disciple. Parce qu'en fait, être un converti, c'est être né de nouveau. Si je suis converti, c'est-à-dire que j'ai reçu Christ. Je suis sauvé, gloire à Dieu. Mais être un disciple, c'est marcher comme le maître. Et quand on parle de la volonté de Dieu, rappelez-vous le premier texte que nous avons lu. Marcher comme le maître implique de se soumettre. Donc volontairement à la volonté du Père. Et ça c'est important. Ça fait partie du caractère du disciple. Ça fait partie du caractère du disciple. Et ici on voit une chose. C'est que l'homme qui veut construire la tour, il a plutôt intérêt. Il a plutôt intérêt à réfléchir avant ce que ça va lui coûter. Et il y a des gens parfois, quand ils voient que Dieu leur demande des choses, même dans la volonté générale de Dieu, ils disent ça va me coûter. La réputation, ma famille, qu'est-ce qu'elle va dire? Et mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ceci, et cela. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Ça va me coûter par rapport aux autres.
Et dans la volonté générale, déjà, ça va te coûter. Mais dans la volonté spécifique,
c'est-à-dire ce
Dieu a pour plan pour toi.
Comme plan pour toi.
Eh bien, je vais vous dire une chose.
Là,
ça vous coûtera encore beaucoup plus.
Parce
que quand vous allez commencer à marcher dans la volonté de Dieu, eh bien, je vais vous dire une chose. Ça va vous demander de la foi. Ça va vous demander de renoncer à certaines choses. Même certaines choses légitimes de la vie. Parce que vous acceptez d'obéir à Dieu. Mais là, faites attention à une chose. Regardez Colossiens
1:9.
Ça sera le dernier texte que nous allons voir. Et ça, c'est un texte hyper important. Et vous avez plutôt intérêt à méditer là-dessus. Si vous avez la tête dure. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'engagent dans des œuvres mortes.
Qui
ne portent pas de fruits. On les voit. Ils se fatiguent. Ils trouvent des financements. Ils vont à droite, à gauche. Ils prient. Et le problème n'est ni l'argent, ni la prière, ni Dieu. Mais c'est le fait de ne pas être dans ce que Dieu leur demande au moment où il leur demande. Regardez Colossiens
1:9.
Vous savez, il y a deux personnages bibliques dont j'aime bien utiliser l'image, la vie qu'ils ont eue, pour illustrer ce que je vais vous enseigner ici. C'est Abraham et Moïse.
Abraham,
Dieu lui avait dit, de toi il y aura une grande nation qui va sortir. Mais le temps passait, il avait la promesse de Dieu, le plan de Dieu, il connaissait tout ça, mais au bout d'un moment, Il a fatigué. Pourquoi? Parce qu'il voyait le temps qui passait. Et il disait, maintenant c'est devenu impossible, je ne pourrais plus avoir d'enfant avec ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été faire Ismaël. Il y a beaucoup d'œuvres d'Ismaël. Des œuvres qui ne sont pas de Dieu. Et qui pourtant, il y avait un appel de Dieu derrière
ça.
Mais ça ne s'est jamais réalisé. Parce que ce n'était pas les temps et les façons de faire de Dieu. Et la même chose pour Moïse. Moïse, vous savez, quand il a tué l'Égyptien, il était rempli de son propre zèle. L'appel était clair. Il était clairement appelé par Dieu pour libérer les Israélites des Égyptiens. Il
n'y
avait aucun doute là-dessus. Le problème, c'est que ce n'était pas M. Moïse qui devait, avec sa propre force, y aller. Ça, ça a amené de tuer quelqu'un, de devenir un meurtrier et un banni pour 40
ans.
Et Moïse a retardé la volonté de Dieu pendant 40 ans dans sa vie. Vous savez, on peut retarder la volonté de Dieu dans nos vies parce qu'on ne discerne pas quelque chose.
Ce
que Colossiens
1:9.
C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, de sa volonté, de la volonté de Dieu. Donc ça, c'est connaître la volonté de Dieu. Donc ça, c'est très bien, connaître la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour nous. Découvrir ce plan. Mais regardez ce que Paul dit en toute sagesse et en toute intelligence. Si vous connaissez ce que Dieu vous a dit, le plan de Dieu pour vous, ne sautez pas dedans tout de suite. Sinon, vous ne serez pas à votre place. Sinon, vous serez l'oreille qui veut devenir œil. Vous vous rappelez dans 1 Corinthiens 12. Et l'oreille dit, mais moi je suis une oreille, je veux être un œil. Paul illustre ce principe ici. Il y a des gens qui sont quelque chose et ils veulent devenir autre chose. Parce qu'ils n'ont pas de sagesse ni d'intelligence spirituelle par rapport à la volonté de Dieu. Quand vous avez reçu le plan de Dieu pour vos vies, n'allez pas tout de suite pour courir pour l'exécuter. Mais demandez à Dieu. Père, j'ai besoin de sagesse. La sagesse, c'est appliquer la connaissance
ubumenyi.
Par rapport à une situation donnée. Dieu vous donne la connaissance de sa volonté. Comment est-ce que ces choses, d'une façon pratique, vont s'exécuter dans
vos vies?
Selon le temps de Dieu. Et là, ça va vous demander de l'intelligence, de la compréhension sur la façon dont Dieu agit, qu'il intervient, qu'il va mettre les bonnes personnes autour de vous. Parce que vous ne pourrez pas exécuter tout seul. Vous aurez besoin des gens autour de vous. Vous aurez besoin de tout un tas de choses pour faire ce que Dieu vous a demandé. Et si vous n'avez pas cette sagesse et cette intelligence spirituelle de faire la bonne chose au bon moment,
eh
bien vous passerez à côté et vous ferez un Ismaël ou vous irez dans le désert pendant 40 ans. C'est malheureusement ce que beaucoup de chrétiens font. Et après on se dit, mais c'est bizarre, personne, elle avait un appel de Dieu sur sa vie, c'était formidable, on voyait, il y avait vraiment quelque chose au départ. C'était pas encore un fruit mûr, mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette personne? Oh, bah finalement, on ne sait pas trop. Oui, elle vient, on la voit de temps en temps à l'église. Je crois qu'elle doit ouvrir sa Bible deux fois par an. Ah bon, mais prêcher avec zèle. Vraiment, elle amenait des jeunes au Seigneur. Gloire à Dieu. D'accord. Dix ans plus tard. Et vous savez, moi j'ai rencontré des gens comme ça. Quand j'ai fait mon voyage. Là. Et c'est difficile parce qu'il y a un silence quand vous les rencontrez. Un silence qui dit... Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et les gens sont gênés. Parce qu'ils savent que vous allez leur poser la question. Et des fois, vous dites, il vaut mieux pas poser la question. Parce que vous savez que ces gens sont passés à côté de ce que Dieu avait. Et c'est dommage. Et ils sont dans le désert aujourd'hui. Où ils ont fait un Ismaël. Avec un petit truc où ils se sont engagés. Ils ont commencé à déclarer que Dieu leur avait dit ceci, Dieu leur avait dit cela. Et puis finalement, Dieu a changé d'avis. Ils ont été obligés de se rétracter. Mais ce n'est pas Dieu qui a changé d'avis. Parce que Dieu est toujours le même. Il ne change pas d'avis. Il a dit ce qu'il a déclaré. Il le fait. Mais c'est les personnes qui n'ont pas eu la sagesse et l'intelligence spirituelle pour pouvoir discerner les moments et les temps et la façon dont Dieu voulait faire les choses. Et mes amis, ce matin, il y a une chose qu'il faut faire, c'est apprendre à se soumettre à ce que Dieu veut pour nous. La plupart d'entre vous, vous êtes jeunes. Vous avez tout l'avenir devant vous. Ne gaspillez pas votre vie. Ne gâchez pas votre vie avec des décisions qui pourraient vous coûter des années et des années. Mais apprenez à écouter la voix du Saint-Esprit et à attendre le moment voulu de Dieu. Attendre la façon de Dieu. Attendre ce que Dieu a pour vous. Dans la sagesse, dans l'intelligence spirituelle que Dieu veut vous donner, dans la prière, en disant Père, montre-moi les temps, les moments, les façons de faire. Je ne veux pas gaspiller ma vie, je ne veux pas gâcher ma vie, je ne veux pas retarder ton plan, mais je veux faire ce que tu as prévu pour moi. On va tous se lever en prière.
Amen. Alléluia.